Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je suis actuellement dans le bateau qui nous emmène en Irlande pour l'ordination au sous-diaconat de frère Denis du Sacré-Cœur. Les conditions ne vont certes pas être les meilleures pour enregistrer un sermon, mais c'est ainsi, elles sont rarement les meilleures d'ailleurs, parce que le week-end, je me trouve souvent en déplacement dans le train ou ailleurs. Saint Thomas d'Aquin poursuit son étude sur Dieu en étudiant la vérité. C'est normal, puisque Dieu est la vérité éternelle, donc c'est à ce sujet, à ce propos de son étude sur Dieu, qu'il étudie la vérité dans les choses, dans nos intelligences, dans le monde. Cette question est très importante parce que notre Seigneur y revient assez souvent dans l'Évangile. L'Évangile de Saint Jean commence par « Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue ». C'est terrible cela. La lumière, c'est-à-dire la vérité, brille dans les ténèbres parce que nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'ignorance par nature. Et puis dans l'erreur à cause du péché, et il faut que la lumière vienne nous éclairer pour que nous connaissions. Et il y a donc deux raisons pour faire ce sermon. La première, c'est que Dieu est la lumière, et puisque nous parlons de Dieu, il est très important de parler de la lumière, c'est-à-dire de la vérité. La deuxième, c'est que les ténèbres ne l'ont pas reçue, alors qu'elles en avaient tant besoin. Et nous dirons donc, à la fin de ce sermon, un petit mot sur comment les ténèbres ont refusé de recevoir la lumière. Cette question est très importante, je vous le disais. Notre Seigneur affirme, si je suis né, si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Il affirme cela au moment de sa passion, devant Pilate. Et plus tôt, dans l'Évangile, toujours Saint Jean, je suis la voie ou le chemin, la vérité et la vie. Nous allons donc voir trois parties à ce sermon, trois questions. Premièrement, ce qu'est la vérité. Deuxièmement, la révolte contre la vérité. Et troisièmement, la vérité restaurée par le Verbe fait chair. Premièrement, qu'est-ce que la vérité? C'est la qualité de l'intelligence lorsqu'elle juge des choses correctement. Je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer cela. Si vous voyez un papillon et que vous dites que c'est une fleur, vous êtes dans l'erreur. Si vous dites que c'est un papillon, vous êtes dans la vérité. Et si vous ajoutez qu'un papillon, c'est un gros insecte qui a deux ailes, etc., vous êtes encore dans la vérité. Pour comprendre la vérité, l'analyse, l'étude de la vérité, il faut évidemment partir de Dieu, parce que Dieu est la vérité éternelle. Pourquoi est-il la vérité? Premièrement, parce que il se connaît soi-même parfaitement, et donc le jugement qu'il porte sur lui est identique à lui-même. Vous me direz, mais à quoi sert d'affirmer que Dieu est identique à lui-même? Nous le savons bien cela. Nous savons bien que Dieu est un, non divisé, absolument parfait et sans aucune composition en lui-même. Oui, mais nous avons des notions et nous ne pouvons remonter à Dieu que par ces notions. Et lorsque des notions différentes, par exemple comme le vrai et le bien, arrivent à Dieu, qu'on arrive à Dieu par ces notions-là, il faut les unir, et nous sommes obligés de dire, en Dieu, le vrai et le bien, c'est la même chose, et il faut même aller plus loin, en Dieu, le vrai et le bien, c'est Dieu. Dieu est le vrai, Dieu est le bien. Non seulement le vrai et le bien sont semblables, mais Dieu est cela. C'est une manière d'affirmer que Dieu n'est pas composé, parce que nous ne pouvons pas voir Dieu tel qu'il est actuellement. Au ciel, nous le verrons tel qu'il est. Et ça nous paraîtra évident qu'il n'y a pas de composition en Dieu et que Dieu est la vérité, puisque nous serons baignés dans la lumière éternelle qui éclairera notre âme, notre intelligence. Nous serons baignés dans la lumière de Dieu. Mais tant que nous sommes sur terre, nous ne pouvons connaître Dieu que par voie de négation et d'éminence. De négation, c'est-à-dire que nous affirmons Dieu n'est pas composé, Dieu n'est pas fini, etc. Ou comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de distinction en Dieu entre lui et la vérité, entre sa pensée et lui. Et puis par voie d'éminence, c'est-à-dire que nous montons toujours plus haut et nous disons Dieu est au-dessus, il est encore plus parfait que les notions les plus parfaites que j'ai réussi à concevoir. Donc je vous disais que Dieu est la vérité éternelle premièrement parce qu'il se connaît soi-même parfaitement et que le jugement qu'il porte sur soi est identique à lui-même. Il s'ensuit qu'il est la première mesure des choses. Dans sa sagesse, Dieu pense des choses, il les pense en ordre en plus, et il les fait exister telles qu'il les pense. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple du papillon et de la fleur. Nous prendrons tout à l'heure l'exemple de la famille. Dieu pense aux familles, à la famille en général et aux familles en particulier, et il les fait exister selon son plan. Nous verrons qu'il peut y avoir le mal, mais le mal nous l'étudierons plus tard. Donc premièrement, la vérité est en Dieu. Deuxièmement, elle est dans les choses, lorsqu'elles sont conformes à ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Vous me direz, la fleur ou le papillon sont toujours conformes à ce que Dieu a voulu qu'il soit. Oui, pour le papillon, mais pas pour la famille. Le modèle est toujours conforme à ce que Dieu a voulu, mais nous, hélas, nous ne sommes pas toujours conformes au modèle. Et voilà pourquoi il y a des vraies familles et des fausses familles. Et il y a des familles qui agissent vraiment selon le plan de Dieu, et d'autres qui sont dans l'erreur par rapport au plan de Dieu. Et troisièmement, la vérité est dans nos intelligences lorsque nous connaissons la vérité des choses, c'est-à-dire la vérité que Dieu a mise dans les choses, dans les êtres, dans les familles, pas seulement dans les choses matérielles. La première constatation que nous pouvons faire à ce propos, c'est la puissance de notre intelligence. Il faut le noter parce que c'est une des choses qui sera niée par les modernes, ce qui est très pratique pour eux d'ailleurs, je vous l'expliquerai. Vous voyez, Dieu, en faisant les choses conformes à sa sagesse, y a mis comme un rayonnement. C'est pourquoi on parle de lumière. L'évangile selon saint Jean dit même qu'il y a mis une vie. Et saint Thomas, dans son commentaire sur le prologue de saint Jean, étudie cette question. Les choses inanimées ont-elles une vie? Eh bien, on peut dire que oui, comme vous trouvez qu'une peinture est vivante, alors qu'une autre ne le sera pas. Une peinture est vivante parce que elle exprime bien la vie du sujet, et puis surtout parce que l'auteur, le peintre, y a mis la lumière qui était dans son esprit, la lumière qui brillait dans ses yeux en contemplant le personnage qu'il peint, par exemple. Une très belle peinture, même une très belle sculpture de la Sainte Vierge, est vivante. Cette lumière rayonne, elle illumine notre intelligence, elle l'éclaire, et par conséquent, on peut faire le raisonnement inverse. Lorsque nous voyons la lumière mise dans les choses, cela nous permet de voir la lumière de Dieu dans les choses, et cela nous permet de remonter à la lumière qu'est Dieu lui-même. Dieu est lumière, c'est-à-dire que Dieu est vérité. Je crois que je vous l'ai souvent dit, l'intelligence est vraiment merveilleuse, elle nous permet d'entrer dans la sagesse et dans la pensée de Dieu. La conséquence de cela, c'est que nous devons constamment avoir le souci de vivre et d'adhérer à la vérité de Dieu. Prenez l'exemple de la famille. La définition de la famille en général est intuitivement connue par tous les hommes. Mais il faut la pénétrer, il faut aller plus loin. Aux périodes de chrétienté, cela se fait tout naturellement parce que la lumière divine est transmise par l'Église, par les sages, par les rois, par les philosophes, par les théologiens, par les poètes, etc. Ce qui fait qu'en période de chrétienté, on arrive assez facilement à une connaissance très profonde de la famille. Aujourd'hui, c'est à chacun des pères et des mères de famille de faire un effort pour se replonger dans cette lumière de manière à ce que leur famille soit véritablement authentique, vraie et conforme à ce que Dieu veut. Et puis après ça, il y a la vérité dans l'action, c'est-à-dire il ne suffit pas seulement qu'il sache ce qu'est la famille, il faut qu'elle soit conforme dans son action. Et là, il y a tout le travail de vérité, le monde moderne dirait d'authenticité, on pourrait dire de fidélité, pour que les enfants, eux aussi, soient conformes à ce que Dieu veut, c'est-à-dire qu'ils soient des hommes. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est qu'un homme, et donc il faut même réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'un homme? Est-ce qu'un homme agit dans le monde? Vous voyez, c'est capital, cela. L'homme est fait pour vivre dans l'union à Dieu. Comment faisons-nous vivre les enfants dans l'union à Dieu? Et comment faisons-nous pour les orienter dans leur vie d'adulte, lorsqu'ils deviennent autonomes, pour qu'ils continuent dans cette union à Dieu? Le bon père Bariel nous disait « Ne laissez jamais une question sans réponse. » Une question importante, bien sûr. La vérité, chez nous, est une question de profonde humilité, de l'humilité de notre intelligence devant la sagesse de Dieu, l'humilité, même après ça, de toute notre vie devant la vie de Dieu. Or, le monde moderne s'est révolté contre la vérité. C'est la deuxième partie de ce sermon. Il s'est révolté de deux manières. La première, en niant la puissance de l'intelligence, et donc en baissant les bras, en se disant que l'intelligence, ne pouvant pas pénétrer dans la profondeur des choses, ne peut pas connaître la vérité. Et puis, par la suite, les modernes ont transformé cette négation de l'intelligence en une profonde révolte, violente révolte. Le premier qui a nié la puissance de l'intelligence, c'est Occam. Enfin, non, pas le premier, mais le plus notable. Il était un religieux franciscain, pourtant. Je ne connais pas la raison de sa négation. Certainement, il a subi des influences. Cette négation, quand on y prend garde, c'est plus qu'une négation. C'est refuser à Dieu la capacité d'éclairer nos intelligences. C'est déjà, le pauvre Cam ne s'en est peut-être pas rendu compte, je n'en sais rien, c'est déjà une révolte. La réponse est pourtant facile. Dieu qui est si puissant, si élevé, que vous prétendez qu'il est trop élevé pour notre intelligence, s'il est si puissant, comment pouvez-vous nier qu'il puisse éclairer l'intelligence et faire des intelligences qui le connaissent lui? La transformation de cette négation en une révolte, cela s'est fait presque aussitôt, c'est tout le problème de l'humanisme d'abord, et puis de la fausse renaissance, car la renaissance est tout sauf une renaissance. Nos ennemis nous piègent avec des mots faux. Le Moyen-Âge n'est pas un âge moyen. Il est au contraire un sommet. La Renaissance n'est pas une renaissance. Oui, elle peut paraître très vivante, mais comme une guerre peut paraître vivante par rapport à la paix. Ce n'est pas de la vie. La conséquence de cette révolte, alors quelques mots sur le nominalisme. Occam disait, puisqu'on ne peut pas connaître la vérité, en tout cas pas sur Dieu, ni sur les choses, alors les mots Les mots sont vides de sens, ils sont simplement des étiquettes pratiques que nous collons aux choses pour arriver à nous débrouiller, disons. Pour arriver à nous débrouiller dans la vie. Les modernes, eux, vont aller beaucoup plus loin. Ils affirment que nos idées, nos mots, donnent la lumière aux choses. Ils affirment que les choses sont inertes dans les ténèbres et que c'est nous qui les éclairons et que grâce à cela, nous faisons des choses ce que nous voulons. Et si nous reprenons l'exemple de la famille, ils affirment que c'est nous qui donnons librement à un homme, une femme et leurs enfants la lumière qui va faire d'eux soit la famille traditionnelle que nous connaissons, soit d'autres types de familles, parce que, disent-ils, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire d'autres types de familles. Quand on dit que l'homme veut prendre la place de Dieu, c'est cela qu'on signifie. Il est évident que l'homme moderne n'affirme pas être Dieu, encore que, si je vous analyse la philosophie révolutionnaire et l'état d'esprit révolutionnaire, il y a quand même un petit peu de cela. Mais en tout cas, le minimum, je ne pense pas avoir besoin de vous donner 36 exemples, vous les avez sous les yeux aujourd'hui, justement avec la famille. On prétend que si on fait les choses autrement, il n'y a plus besoin de père, ou bien qu'une mère peut également être un père, etc., etc. Et alors, ces gens-là qui affirment qu'il n'y a pas de vérité, en réalité, recréent une vérité, et lorsqu'ils sont les plus forts, ils imposent cette vérité. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Malheur à vous si vous exprimez votre opposition aux vices modernes, aux fausses familles qu'on prétend nous imposer aujourd'hui, aux faux mariages pour tous, etc. Malheur à vous si vous avez une opinion discordante de l'opinion générale, que ce soit sur l'Ukraine, sur Poutine, sur que sais-je, ou sur le Covid. Cela montre bien les trois étapes de la révolte. Premièrement, nier que l'intelligence puisse connaître. Deuxièmement, affirmer que l'intelligence prend la place de Dieu pour éclairer les choses et les faire ce qu'elles sont. Et troisièmement, rétablir une vérité révolutionnaire à laquelle on redonne le caractère divin de toute vérité est divine, disons sacrée. Le problème, c'est que ce n'est plus le sacré de Dieu, c'est le sacré inspiré par le premier de tous les révoltés, Satan, et transmis ce faux sacré de révolte par tous ses complices. Troisième partie, la vérité est restaurée par le verbe fait chair. Le verbe, en latin, verbe ne veut pas dire verbe, le verbe être ou le verbe chanter, avoir, que sais-je. Cela veut dire la parole. En grec, c'est la même chose. La parole faite chair. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il donné à Jésus-Christ le nom de parole ou de verbe? Eh bien, parce qu'il exprime la vérité éternelle de Dieu. Et je vous l'ai dit en introduction, Saint Jean nous fait remarquer dès le début de son évangile, tellement c'est important, que le Verbe est vie et lumière, il est la lumière qui éclaire les réalités, ça nous a servi à analyser ce qu'était la vérité. Il est la lumière qui fait rayonner les réalités, c'est-à-dire qu'il donne la vérité, et il la restaure face au monde révolté. Car je vous ai dit que le monde moderne était révolté contre Dieu. Cette révolte, hélas, date du début. Elle a pris diverses formes, mais le résultat, c'est que le monde était plongé dans les ténèbres. Et pas seulement les ténèbres de l'ignorance, le fait de ne pas connaître, ne pas savoir, mais les ténèbres de l'erreur, c'est-à-dire de porter des jugements faux. Et pourquoi notre Seigneur dit-il qu'il est la voie, la vérité et la vie, la lumière et la vie? Parce que La vie de l'homme, c'est de connaître Dieu et, par cette connaissance, d'entrer en union profonde avec Dieu. Vivre dans la vérité théorique, contempler Dieu, vivre dans la vérité pratique, être fidèle à Dieu. Et Saint Jean ayant posé ce principe, ou plutôt le Saint-Esprit ayant inspiré à Saint Jean de poser ce principe fondamental dès le début de son évangile, à savoir que le Verbe, le Christ, est le Verbe, qu'il est la lumière et la vie qui vient dans les ténèbres, et que les ténèbres ne l'ont pas reçu, à partir de là va se dérouler toute l'incarnation, la rédemption, comment nous revenons à Dieu par Jésus-Christ. Lisez l'Évangile qui nous transmet cette lumière surnaturelle de Dieu. Et en cette période de carême, lisez la liturgie, profitez, méditez la liturgie, profitez-en, parce qu'elle aussi vous transmet une lumière qui n'est pas seulement lumière, mais qui, dans la liturgie, est lumière et vie. Que Dieu vous bénisse, que la Sainte Vierge vous donne une profonde connaissance du Verbe, son Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.